Alors bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Discutons de l'innovation. Nous sommes 6 amis étudiants à l'UTC et nous vous présenterons 6 podcasts autour de l'innovation. Nous avons la chance d'enregistrer ces podcasts dans un studio de radio. Il s'agit de la radio Graphite que vous pouvez écouter sur le 94.9 FM. Ces podcasts sont réalisés dans le cadre d'un projet de science et débat public. Et pour des raisons sanitaires, nous serons que 3 étudiants à parler par podcast et pour chacun d'entre eux, nous effectuerons un roulement afin que tout le monde puisse y participer. Aujourd'hui, il y a
Elena,
Imène
et moi-même Andrea. Alors avant tout, je tiens à m'excuser pour la gêne occasionnée par ma toux. J'ai en effet de la toux. Alors Imène, de quoi allons-nous discuter durant ce podcast ?
Alors, si je vous parle d'intelligence artificielle, là comme ça, ça peut vous paraître un petit peu abstrait. Mais si je vous disais que vous en utilisez une tous les jours, est-ce que vous sauriez deviner laquelle ?
Là tout de suite, pas vraiment.
Le téléphone.
Alors exactement, Andrea. Si vous voulez, le téléphone, ça va être une petite machine bourrée d'applications d'intelligence artificielle, dont une qui est très connue et qui est Siri, qui permet de répondre à nos questions dès qu'on en a. Alors maintenant, en sachant qu'une IA vous suit dans votre quotidien, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question suivante ? Où vont les informations qu'elle récolte ? Et si oui, est-ce que vous savez y répondre ? C'est ce sujet qu'on va aborder aujourd'hui dans ce podcast. Du coup, Elena, je te laisse commencer.
Merci. Alors, premièrement, on va voir à quel point une IA, elle peut remplacer un être humain. Donc, au niveau du travail, de comment va évoluer l'emploi, comment le monde du travail va se réorganiser et aussi, est-ce que cela change quelque chose sur l'aspect social ? Donc, pour poser les bases, on va définir ce qu'est une IA. Donc, l'intelligence artificielle, IA ou AI, pour, en anglais pour Artificial Intelligence, consiste à mettre en œuvre un certain nombre de techniques qui visent à permettre aux machines d'imiter une forme d'intelligence réelle. Et de nos jours, l'IA se retrouve implémentée dans de plus en plus d'applications.
Mais d'où vient la technologie des IA ?
Alors, cette notion, elle voit le jour en même temps que l'arrivée des ordinateurs dans les années 1940-1950. Et d'après Frédéric First, maître de conférence de l'université de Picardie, eh bien, les ordinateurs semblent rendre possible le rêve de l'intelligence artificielle. Mais c'est aussi grâce à Alan Turing, qui a déchiffré la machine Enigma, que vous devez sûrement connaître, qui soulève la question d'apporter aux machines une forme d'intelligence.
Alors, c'est donc un terme qui remonte aux années 40, c'est assez vieux, et depuis, l'IA a grandement évolué. Toutefois, on va dire que l'IA n'est pas sans faille. En effet, une intelligence artificielle, elle a besoin de beaucoup de données sur quoi baser son intelligence, entre guillemets. Et donc, ces bases de données sont fournies par ce qu'on appelle des travailleurs du clic. Alors, ce sont des personnes qui sont rémunérées pour cliquer sur des images à longueur de journée. Et ce sont les mêmes images sur lesquelles on doit cliquer quand on nous dit sur quelles images voyez-vous un feu rouge, vous savez, quand on doit se connecter sur un compte Google. Ouais, ben voilà. Alors, c'est pour vérifier qu'on n'est pas un robot.
C'est ça, ouais.
C'est ce qu'ils nous disent. Mais en fait, c'est aussi en répondant à cette question, nous, l'utilisateur, on alimente en quelque sorte les bases de données d'une IA. Ouais. Mais il y a des gens qui font ça vraiment à longueur de journée et qui sont payés des miettes de pain.
Ça doit être fatigant.
En vraiment. Effet, je pense.
Mais du coup, en fait, une IA, ça ne va pas être plus qu'un algorithme.
Alors, il faut bien faire la différence entre algorithme et IA. Alors, on a tendance à dire qu'une IA, ce n'est rien de plus qu'un algorithme. Donc, soit oui, une IA relève de l'algorithme. Cependant, il y a une nuance, car un algorithme est une suite d'opérations qui utilise des données fournies et arrive au résultat recherché. Et je dis bien recherché, puisqu'on connaît déjà le résultat au préalable. La différence, c'est qu'une intelligence artificielle va apprendre à partir d'exemples qui lui sont fournis pour obtenir une réponse à un problème dont nous, utilisateurs, ne connaissons pas la solution.
Du coup, si je comprends bien, l'intelligence artificielle, elle va plus ou moins se mettre à la place d'un expert pour trouver la solution à un problème à notre place. Donc nous, les humains. Mais du coup, l'IA, elle peut répondre à un problème que dans le domaine dans lequel elle est spécialisée. Donc on est encore loin du jour où elle pourra résoudre n'importe quel problème sans connaître la solution à l'avance.
C'est pas faux, oui. Mais du coup, là, on a un peu défini ce que c'était une IA, mais on a des exemples précis qu'on puisse avoir un peu une meilleure idée de ce que c'est, car la notion d'intelligence, là, c'est peut-être un peu flou.
Alors, en effet, moi, j'ai un exemple très parlant.
Ouais.
Donc, c'est Tay, un robot qui apprenait à discuter avec ses interlocuteurs. Donc, Tay, c'est une intelligence artificielle développée par Microsoft et elle avait pour but de discuter avec des interlocuteurs sur Twitter. Et au fur et à mesure des discussions, elle devait affiner ses réponses pour devenir, entre guillemets, plus intelligente. Donc, Microsoft lui avait revêtu le rôle d'une adolescente. Donc, elle sortait les emojis, les abréviations et tout ce qui allait avec. Mais elle avait aussi notamment des réponses préenregistrées par rapport à des sujets qui peuvent fâcher, donc par exemple le terrorisme.
Un peu, ouais.
Où elle devait répondre du style je ne supporte absolument pas le terroriste, enfin des trucs comme ça.
Ouais.
Et sauf qu'en tant qu'être humain, dans sa bonne nature, nous, on a tenté de pousser les limites de Tay. Sauf que ça a mal tourné, en fait, parce que elle a dit des choses qui n'étaient pas forcément souhaitables pour une intelligence artificielle, surtout en test sur les réseaux sociaux. Donc, en effet, au bout de quelques heures, elle a tweeté que Bush était responsable du 11 septembre, que Hitler aurait fait un meilleur boulot à gérer le pays des États-Unis. Donc, c'est des propos très, très, très limites auprès de Microsoft, qui a aussi rapidement supprimé le tweet. Mais elle a aussi nié la Shoah et bien d'autres trucs fâcheux.
C'est pas fou, ouais.
Donc, au bout de quelques heures, Tay a été supprimée après un échec fracassant, puisque Microsoft a affirmé que certains interlocuteurs se sont acharnés pour la pousser à répondre de façon inappropriée. Du coup, vous en pensez quoi ?
Bah, personnellement, Twitter, ça me choque pas trop, quoi.
Ouais, c'est pas faux. Et surtout, pousser les limites d'une IA, sachant qu'elle, elle prend les données de tout le monde, forcément, ça va influencer ses réponses, quoi.
Ouais. Voilà. Bah après, le but de l'IA, enfin Microsoft l'avait lancé sur Twitter pour qu'elle affine ses réponses en fonction des interactions. En soi, elle a affiné ses réponses.
C'est juste que c'était un groupe de personnes qui parlaient que de ça, donc forcément.
Ouais.
En soi, moralement, c'était pas bon, mais sur l'efficacité, on est bon.
Ouais, niveau c'est technique, je pense que c'était bon, mais niveau moral.
Pas du tout.
Pas du tout, moins bon.
Oh, d'accord. Donc là, on a un peu mieux compris de quoi on parle. Du coup, je propose qu'on se penche un peu plus sur la structure des types d'apprentissage d'une IA. Donc, j'ai trouvé un petit schéma très sympathique qui explique bien la situation. Problème, c'est qu'on est à la radio, je ne peux pas vous le montrer, du coup, je vais vous l'expliquer. Alors, il existe d'abord le deep learning, donc ce sont des systèmes qui apprennent via des réseaux neuronaux sans être guidés par l'homme. Après, il y a le machine learning, donc ce sont des systèmes qui apprennent sur la base de grands ensembles de données structurées. Et en troisième, il y a l'intelligence artificielle qui regroupe les deux types précédents et qui sont des systèmes d'imitation de la pensée et des actions humaines.
Et entre toutes ces catégories-là, ça va être quoi les principales différences et les impacts qu'elles vont avoir ?
Alors tout d'abord, le deep learning, c'est une technologie qui dépasse l'humain dans certains domaines. Donc ça, c'est fou. Et elle n'a pas besoin de données structurées, en fait. Elle fonctionne avec des couches de réseaux neuronaux en s'inspirant du modèle humain et elle est du coup très adapté pour les tâches complexes. Donc, lorsque ce système fait face à un objet compliqué à catégoriser, il identifie lui-même les caractéristiques discriminantes qui le différencient d'un autre objet, par exemple, afin de décider au fur et à mesure de la classification d'un objet. Et avec, pour chaque couche neuronale, une caractéristique. Et ensuite, le machine learning, eh bien, c'est un algorithme qui s'appuie sur des retours faits par l'humain, ou pas d'ailleurs, et qui a besoin de données structurées, catégorisées et a besoin d'être entraînées.
Mais du coup, j'imagine qu'il y a pas mal d'inconvénients, non ?
Eh oui, comme tout, il y a des inconvénients. Donc le principal, c'est que ces deux types d'apprentissage ont besoin d'énormément de données. Et en quelques chiffres d'ailleurs, le deep learning doit avoir au moins 100 millions de données pour donner des résultats considérés comme fiables. Et je pense que c'est aussi à cause de ça que le deep learning est bien plus coûteux que le machine learning.
D'accord, ok. Je pense que ça nous comprend ça nous permet de mieux comprendre. Est-ce que tu aurais des exemples, n'empêche ?
Ouais, alors j'en ai quelques-uns que vous allez reconnaître, je pense. Donc au niveau du deep learning, on a en sécurité informatique des systèmes qui permettent de déceler des nouveaux risques inconnus grâce à leur capacité en fait à détecter des anomalies déjà connues dans le réseau neuronal d'un virus, par exemple. Après, au niveau support client, comme une chatbox, cette chatbox sera beaucoup plus efficace. Elle ne se limite pas à des mots-clés et des réponses proposées. Et du coup, ça aura un rendu beaucoup plus susceptible de répondre à la demande du client. Ensuite, il y a les assistants vocaux que vous connaissez sans doute, Siri, Alexa, Google Home, car les utilisateurs peuvent s'exprimer normalement, tout à fait normalement, pour demander tout type d'action. Et finalement, il y a aussi la création de contenu, donc musicalement, artistiquement. On en parlera tout à l'heure, je pense que ça va vous plaire. Et finalement, on a des exemples de machine learning. Donc on retrouve la chatbox sur des sites internet simples, mais avec des questions proposées, dont la réponse est donc connue, et avec des mots-clés. Au niveau de la vente, eh bien, on a des systèmes qui peuvent analyser les préférences des utilisateurs et qui anticipent avec précision les produits qui pourraient les intéresser. Et du coup, faire un peu de chiffre de vente. Et finalement, en informatique décisionnelle, eh bien, ça sert à analyser beaucoup de data en entreprise et qui rendent des résumés beaucoup plus compréhensibles pour les humains qui prendront ensuite les décisions.
Ok, ok, je vois. Bah, du coup, c'est un peu plus précis quand on a des exemples comme ça. Mais il me semble qu'Andrea a un autre exemple du machine learning. Est-ce que tu pourrais nous le présenter ?
J'ai en effet un autre exemple. Alors, un autre exemple du machine learning qu'on a peut-être déjà tous entendu parler en école d'ingé, c'est Wolfram Alpha. Est-ce que vous connaissez ?
Ouais, je connais.
Perso, non.
D'accord, ok. Je pense, Elena, il faut que tu connaisses. Parce que c'est une IA qui se sert du machine learning. En effet, elle recense un grand nombre de données, que ce soit images, son data, pour répondre à des questions que tu pourrais avoir. En fait, c'est vraiment des questions de base auxquelles elle répond. Moi, personnellement, je m'en sers pour vérifier mes résultats en maths.
Forcément,
parce que
ouais.
C'est archi, archi utile. Hein. Vraiment, ouais, c'est incroyable.
Vraiment, vraiment bien fait le truc. Hein.
Ouais, genre ça donne plein d'informations par rapport à une équation, en fait.
Ok.
Donc, tout ce que tu as besoin de savoir, c'est sur Wolfram Alpha.
Ok, bah, je vais m'en servir alors. Bon, du coup, à partir de ça, on a voulu avoir un avis extérieur à propos de ces technologies et de tout ce qu'elles englobent. On a donc interviewé un étudiant de l'UTC qui a bien voulu nous répondre. Il se trouve en génie informatique, c'est Ilyas Rumouk. Donc voici ce qu'il pense des IA et si elles sont bénéfiques ou non à long terme.
Une image trop améliorative des IA dans le sens où elles sont pas toutes puissantes. Une IA ne peut pas tout faire. Une IA, c'est avant tout un outil. Donc, à la question, est-ce que les IA seront bénéfiques ou maléfiques, tout dépendra de ce qu'on en fait avec. Enfin, c'est comme, la chimie ou des choses comme ça. C'est des outils et si on en abuse, c'est clair qu'on peut faire du mal avec. Après, on peut s'en servir aussi comme des outils. Ce sont d'excellents outils et elles peuvent réaliser beaucoup de tâches.
Ok, donc vous écoutez toujours la radio Graphite sur le 94.9 FM et ou sur graphite.net. Donc, d'après sa réponse, eh bien, ça dépend de comment on les utilise, les IA. Forcément, c'est des outils à la pointe tant qu'on a un bon algorithme. Mais il y a des limites, comme toute innovation. Et d'ailleurs, Ilyas nous les explique maintenant, ces limites.
Donc pour l'instant, les intelligences artificielles qu'on a, qui sont, je pense, le plus développées dans la plupart des domaines, c'est le machine learning, comme on l'a entendu aujourd'hui. Et il faut savoir que le machine learning a besoin d'énormément de données. Et dans ce cadre-là, c'est très limité. Il y a beaucoup de paramètres qu'il faut... Enfin, pas de paramètres, mais de données en entrée qu'il faut trouver, qu'il faut... Et donc déjà, ça, c'est une limite. Et après, une IA ne peut pas tout faire. En fait, les IA en elles-mêmes sont très limitées. Elles sont... Enfin, il faut pas avoir, comme je dis, cette image un peu idéaliste de l'IA au niveau de l'intelligence humaine. On est encore très loin. On arrive à faire des choix d'IA qui jouent aux échecs, mais Pour toutes les choses de la vie qui sont réfléchir, comprendre du sens, des choses comme ça, pour l'instant, on en est encore très loin. Donc, en tout cas, des limites, en tout cas, techniques, peut-être qu'elles sauront être surpassées dans le futur. Mais pour l'instant, c'est clair que la plupart des IA sont très limitées.
Ok. Donc, vous écoutez toujours la radio Graphite sur le 94.9 FM ou sur graphite.net. Donc ouais, en gros, le machine learning, en fait, il utilise beaucoup de données. Et donc voilà, ça influe sur comment on peut s'en servir des IA, les limites en ce moment. Et donc c'est encore loin, encore bien loin de l'intelligence humaine. Après, il y a certains films de science-fiction qui imaginent déjà des super intelligences artificielles qui seraient capables d'être pratiquement à l'égal d'une intelligence humaine. Donc je pense à des films comme Iron Man de la série Marvel, où Jarvis est l'assistant informatique du personnage Tony Stark. Donc j'ai aussi demandé à Ilyas si cette situation, finalement, elle était réaliste dans un avenir proche.
Une intelligence artificielle du niveau de Jarvis, du coup, dans Iron Man, on en est encore très loin. Cette vision un peu biaisée des IA humaines, elles prennent pas en compte le fait que le cerveau humain, en fait, est capable de réaliser beaucoup de tâches en simultané, des tâches complexes et surtout des tâches qui dépassent clairement ce que les IA peuvent faire. Donc c'est chouette, on arrive à faire des jolies IA qui jouent très bien aux échecs ou jeux de Go, ou qui savent reconnaître des visages, mais des IA qui arrivent à dépasser les capacités générales d'un humain, on n'y est pas encore. Et je pense pas qu'on y sera avant un certain nombre d'années. Enfin, la recherche travaille dessus, mais on avance petit pas, et il y a encore une sacrée route à faire.
Alors, du coup, on va peut-être rebondir sur ça avec Imen. Du coup, on va reprendre les questions, plus ou moins. Imen, est-ce que tu penses que les IA feront bénéfique à long terme?
Bénéfiques, je pense qu'elles le seront. Mais il faut quand même savoir que pour moi, je pense que l'IA, ça reste quand même un algorithme qui est créé par l'homme pour l'homme. Donc du coup, sa capacité, elle va être assez limitée et ça va surtout être de la mémorisation. C'est-à-dire qu'on va l'utiliser pour quelque chose qu'on n'a plus envie de faire nous. Donc sa capacité, à mes yeux, va quand même rester pas mal limitée. Je sais pas ce que t'en penses, toi.
Ouais, non, en vrai, je pense que les IA, elles vont plus être le résultat de l'évolution. Donc en gros, il y en a pas mal qui voient ça comme les IA comme étant quelque chose, voilà, maléfique, machin, on va perdre des jobs. Mais en fait, depuis le début de l'humanité, l'évolution met des gens de côté et elle en embauche de l'autre, en fait. Parce que par exemple, à prendre avec l'invention des voitures, bah, il y a eu une baisse énorme de travail chez les cochers. Donc forcément, les cochers ont été mis de côté parce que les gens apprenaient à conduire leur propre voiture et avoir leurs propres moyens de locomotion. Donc en fait, ouais, ça retire des postes, mais elle en crée derrière. Donc soit qu'on a besoin, pour moi, un peu plus de formation, comme ingénieur, machin, mais que, pour moi, la société, elle doit s'adapter à l'évolution, sinon, nous, en général, en tant que société, on ne pourra jamais évoluer.
Je suis d'accord avec ce point-là, mais je tiens quand même à reprendre enfin, une chose que tu as dite, qui est que ils vont créer des emplois à plus fort, comment dire, à plus fort potentiel. Enfin, je sais pas
Avec
si...
avec une formation plus poussée.
C'est exactement ça. Donc, du coup, pour moi, ça montre quand même une grosse faiblesse de l'IA qui est que bah, ils peuvent remplacer certains emplois, mais pas tous, dans le sens où je vois mal une IA être un ingénieur, par exemple.
Ouais, non, non, je comprends. En vrai, c'est parce que du coup, elle a plus un intérêt de fonctionnalité. Parce que pour moi, en effet, elle sert à faciliter le travail de certains informaticiens, par exemple, notamment dans le domaine de la cybersécurité. C'est voilà, c'est plus voilà comme tu dis, un assistant de l'homme et pas tant un égal de l'homme.
Je te rejoins quand même pas mal sur ce point-là, dans le sens où je pense que ça va être quand même qu'une aide pour l'être humain et que ça va pas finir par totalement les remplacer, si ce n'est dans les petits jobs type caissier ou des choses qui sont facilement faisables par des machines.
Ouais. Ouais, non, je pense que ça va être comme ça et que du coup, enfin, en tant que société, on n'a pas forcément besoin d'en avoir peur. Ça m'étonnerait que ce soit maléfique comme on
Ouais, c'est
pourrait les
ça.
appeler, ouais. Mais du coup, voilà, elles ont une limite toute particulière qui est que elles sont créées par l'homme.
Exact.
Donc l'homme a toujours la main sur ce qu'elle pourra faire au final.
Exactement.
Voilà. Et du coup, Imen, le futur, tu vois quoi, les IA?
Je trouve quand même que les IA, ça se développe plutôt vite. Enfin, il faut savoir que ça a apparu, comme vous avez dit, il n'y a pas si longtemps que ça, quoi,
Ouais.
1940, 50.
Ça, c'était le terme, c'était l'idée.
L'idée,
Ouais, c'est ça.
déjà. Donc, en plus de ça, de manière physique, ça a apparu encore plus tard, j'imagine.
Ouais.
Mais du coup, pour l'époque à laquelle ça a apparu, ça a quand même pas mal évolué depuis. Enfin, je pense pas qu'il y a 30 ans, on aurait pu penser avoir des assistants vocaux chez nous, qui nous aident autant que ça, quoi.
Non, c'est
C'est
vrai.
sûr, déjà, il y a 30 ans, un téléphone portable, c'était ouf.
C'était
Ouais,
quand
voilà,
même
imaginer
incroyable.
à peine.
Ouais, c'est ça en fait, parce que on a des innovations qu'on considère au début, enfin au tout début qu'elles sortent, on les considère comme un luxe.
Ouais, même limite pas réalisable, quoi.
Pas réalisable, voilà, le téléphone de la maison, avant, personne n'en avait, il y avait que les riches qui en avaient.
Exact.
Et maintenant, tout le monde a un téléphone dans sa poche, en fait. Du coup, je pense que l'intelligence artificielle, il faut le voir un peu comme ça. Je pense que c'est un luxe pour l'instant. Donc, ceux qui s'en servent, c'est vraiment. C'est le début, tu vois. Et après, ça va devenir Enfin, c'est comme un confort aujourd'hui. Et après, ça va devenir une nécessité.
Ah, tu penses que ça va devenir une nécessité?
Ah, je pense, comme le téléphone, en fait. Aujourd'hui, tu peux rien faire sans ton téléphone.
C'est vrai, c'est vrai. Mais déjà, ouais, déjà sans l'ordinateur ou le téléphone, les études, déjà, ça devient déjà pas mal plus compliqué.
Surtout en ce moment.
Surtout en ce moment. Enfin, je me vois mal, sans rien, pouvoir suivre mes cours à distance. Donc c'est vrai que ça devient quand même une nécessité.
Voilà.
Bon, du coup, là, on a bien compris un peu les IA, en gros, leurs limites. Est-ce qu'elles avaient un vrai avenir maintenant ? Donc, on va aussi apprendre une autre manière de les utiliser. Donc, pour nous renseigner, en fait, on a regardé une vidéo de Seb Lafrit, qui s'appelle Seb maintenant sur YouTube, sur la musique faite par les IA. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la regarder parce qu'elle est vraiment très intéressante. Et surtout au niveau du remplacement de l'art par les IA. Donc, en parlant d'art, je vais vous raconter une petite histoire des IA dans l'art, en fait, vraiment la peinture. Et vraiment, j'adore cette histoire. Donc, elle commence en 2016, quand des historiens néerlandais de l'art ont voulu utiliser l'intelligence artificielle, non pas pour créer une œuvre déjà existante, mais pour en créer, copier avant. Mais en fait, là, ils veulent vraiment en créer une. Donc, ils ont choisi comme peintre Rembrandt et ont numérisé plus de 300 tableaux de cet artiste pour établir une base de données utile.
Mais alors, du coup, c'est un peu comme du deep learning. Là, il va y avoir besoin de beaucoup de caractéristiques de référencement.
Ouais, c'est ça. Beaucoup de données, en fait, à partir des tableaux. Et elle veut aussi un peu apprendre toute seule les différentes caractéristiques. Donc, c'est un algorithme de grande puissance qui va être utilisé pour détecter les 60 caractéristiques qui font un peu la signature de l'artiste, en fait. Et par exemple, quelques de ces 60 points précis sont, par exemple, l'inclinaison de la tête du sujet, l'écartement des yeux ou encore la forme de la bouche telle que Rembrandt les peignait réellement. Donc, ces historiens ont lancé la machine et 500 heures plus tard, donc à peu près 20 jours, hein, 21 jours, de calcul plus tard, eh bien, l'algorithme rendait une œuvre numérique, bien sûr, mais qui correspondait totalement au style de Rembrandt.
Putain, 500 heures,
c'est quand même énorme.
C'est long.
C'est long, mais en même temps, le rendu, il est assez fou, quoi.
Bah, j'imagine, en fait.
C'est comme une vraie peinture, tu vois. C'est fou, c'est clairement fou.
Mais en fait, c'est une analyse vraiment profonde. Ouais. Le fait qu'ils ont pris combien de tableaux ?
300.
300 ?
Ouais.
D'accord, donc genre, elle a analysé 300 écartements d'yeux.
Et surtout, c'est ça. Et surtout qu'en fait, les tableaux, ils étaient numérisés, mais avec une précision, mais vraiment énorme, quoi. Vraiment énorme. Et du coup, je trouve ça d'autant plus fou que cette IA ait pu réaliser ça, sachant qu'il y avait des techniques que l'artiste utilisait, comme par exemple le clair-obscur. Nous, on connaît ça, si vous avez un peu une âme d'artiste, vous connaissez peut-être ça, le clair-obscur.
Non. En première. Si, on l'a fait en première.
Okay. C'était au programme.
Eh bien, le clair-obscur, en fait, l'IA, elle l'a pas fait en première, vu qu'elle n'est pas allée à l'école, pratiquement. Et eh bien, elle a dû le découvrir elle-même. C'est ça qui est fou. Genre, elle a dû se dire, là, c'est un peu foncé, là, c'est un peu clair, bim. On va faire du clair-obscur. Donc, juste pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, le clair-obscur, c'est un contraste entre un fond très sombre et un visage lumineux. Le truc, c'est que les historiens se sont dit « Non, on ne va pas s'arrêter là, quoi. » Et ils se sont munis d'une imprimante 3D, donc pour imiter les coups de pinceau, carrément. Et ils ont demandé à l'algorithme d'identifier le nombre de couches de peinture qu'il fallait utiliser afin de rendre une œuvre qui ressemble vraiment en 3D à un tableau authentique. Et pour la petite anecdote, des experts de Rembrandt ont découvert cette œuvre et furent extrêmement surpris par la vraisemblance en fait du tableau par rapport à ceux de l'artiste. Ils se sont dit, on est des experts, on ne connaît pas ce tableau.
Ouais, non, mais
c'est un peu ça, quoi.
En fait, ça prouve la puissance de l'IA.
Ouais, bah, c'est ça.
Pas mal, ouais. Enfin, ça montre que ça se développe.
Ouais, mais juste, tu vois, pour une tâche très précise. Et c'est pas de la réflexion pure et profonde.
Quoi. Ouais, c'est juste de l'analyse.
Ouais, c'est ça, c'est de l'analyse. Et
c'est de la numérisation de données.
Il lui a fallu 300 tableaux, quoi, donc c'est pas rien.
Et 500 heures.
Et 500 heures.
Mais surtout qu'il a dû faire des statistiques de malade en mode si on met un nez, trois yeux, non, ça passe pas, ok, on va refaire ça, quoi.
Ouais, oui, aussi, parce que.
Il fallait.
Voilà, il a pas le concept d'un vrai visage,
c'est ça. Oui, c'est ça. Il a du tout apprendre.
Ouais, enfin, du coup, il a tout repris du début, quoi. C'est quand même incroyable. Ça, ouais. Il me semble que Andrea aussi, t'as une anecdote sur la musique.
C'est ça, j'ai une anecdote sur la musique. Donc, justement, dans la vidéo de Seb Lafrit, il en parle. Donc, de deux exemples d'IA. Donc, la première, c'est une IA qui s'appelle Flow Machine et qui a été créée par Sony CSL. Et cette intelligence artificielle a reçu l'entièreté de la discographie des Beatles et des schémas musicaux de base, du style accord, etc.
Ouais.
Elle a alors recréé une nouvelle chanson des Beatles, toute nouvelle. Par contre, les paroles qu'elle avait créées, donc c'était prise
des parcelles de paroles.
Du coup, ça ressemblait plus à des onomatopées sataniques qu'à des vraies paroles. Donc, il y a un lyriciste qui est passé derrière, qui a réécrit les paroles sur la top line qu'elle avait créée, la machine, et qui a ensuite chanté. Donc, on va vous la faire écouter un petit peu plus tard. Et il y a alors aussi Space 150, donc une agence de technologie qui a aussi fourni la discographie de Travis Scott à une IA. Et qui a, donc l'IA a analysé les rimes, les schémas musicaux, etc. Et alors recréé une chanson qui s'appelle Jack Pork Canny Dope Men. Donc on va vous la je vais vous faire écouter la première des Beatles et puis après la deuxième.
Enfin, des Beatles IA.
Des Beatles oui. IA, voilà.
À préciser.
C'est tout de suite. Alors du coup, voilà, ça c'était Daddy's Car de l'IA qui a créé les Beatles. Vous en pensez quoi ?
Bon, en vrai, moi j'adore, hein. Franchement c'est bien.
Très très bonne mélodie, j'aime beaucoup.
Voilà. Alors du coup, vous écoutez toujours Graphite sur le 94.9 FM ou sur graphite.net. Alors maintenant, je vais vous passer la chanson de l'IA qui a recopié le style de Travis Scott et puis on va en discuter juste après. Talking trippy on my plate. She looked too freezing.
can see my time to show up. So I'm supposed to blow up. When you say I fucked a place to pull up. Talking about money, get the show up. Fuck around, it's love when I straight up. I keep them time and coding, they was green up. And you got a brother, never throw up. I don't want no bean if you call me up. I don't really wanna buck your party, boo. I pull up in the world over in the mood. Yeah, I did call you, say you really do. Guess they don't want the best of West, boo. Shit is diamonds in the collar now.
Alors du coup, vous écoutez toujours la radio Graphite sur le 94.9 FM ou sur graphite.net. Alors, on en pense quoi ?
En vrai, ça aussi c'est bien, en vrai.
J'ai beaucoup aimé et c'est très ressemblant à Travis Scott.
Ça moi. Ressemble beaucoup à Travis Scott ?
Ouais, je trouve que le style y est pas mal quoi.
Moi aussi je trouve. Personnellement, je trouve que ça ressemble grave à Travis Scott, l'autotune en fait.
Ah ouais, en vrai je connais pas Travis Scott de base. Enfin, je crois. Mais ouais, en vrai c'est de la bonne musique hein.
Non, c'est vraiment pas mal, j'aime beaucoup.
Moi, je trouve ça claque.
On va dire que les bases de data de Travis Scott sont très bien.
Le travail a bien été fait. Alors, moi, j'ai une question. Est-ce que vous voyez, avec ces musiques-là qu'on a écoutées, toutes ces œuvres d'art, est-ce qu'on peut vraiment parler d'art, si vous voulez ? Genre, est-ce que, à votre avis, le fait d'avoir une âme, je mets ça entre guillemets, ça va vraiment être une condition nécessaire à l'appellation artiste ? Ou est-ce qu'un robot peut parfaitement être un artiste s'il crée du contenu ?
C'est compliqué à dire.
Alors moi, je pense que, surtout par rapport aux deux musiques qu'on vient d'écouter, elle a créé la musique, mais elle s'est basée sur deux artistes vivants qui ont une âme, entre guillemets. Du coup, je ne sais pas si on peut parler d'art. Pour moi, c'est plus un outil comme un autre, comme un appareil photo, une imprimante 3D.
Surtout que c'est pas elle qui l'a fait, c'est l'algorithme. Genre, c'est quelqu'un qui a écrit un algorithme, et en plus, et ensuite, je veux dire, l'algorithme a fait ça, mais c'est... Voilà quoi, c'est... Pour moi, c'est pas vraiment un artiste. Voilà.
Ouais, pour moi, c'est pas de la création. Je suis d'accord avec vous, je vous rejoins sur ça.
Ouais, je pense qu'il y a forcément quelqu'un derrière. Et ce quelqu'un derrière, bah, c'est l'artiste.
Exactement. Et forcément, avec l'art, ce débat-là, on en vient au débat inévitablement des émotions. Donc, à votre avis, je vais vous poser une question qui peut être assez évidente pour nous, mais est-ce qu'une IA peut avoir des sentiments comme, je sais pas, la colère, la tristesse ?
Ça, c'est de la philo, ça. On n'est pas en école d'ingé pour rien.
Ben, philo. Non, en vrai, non. Les émotions, c'est trop pour les êtres, tu vois, les êtres vivants. Que ce soit, je veux dire, les animaux, l'homme, tout ça. Mais vraiment, un système informatique, avoir des émotions, non. C'est juste, ouais, ce sera des imitations d'émotions, en fait.
Ouais. Je ne suis pas sûre qu'on peut définir l'émotion.
Je suis d'accord avec vous.
Alors, des gens et des non.
Je suis assez d'accord et ça peut aussi assez paraître évident, mais en fait, si vous voulez, une IA, elle est incapable de ressentir des émotions, ce qui va marquer une grande différence avec nous, les êtres humains. Pour reprendre les termes du chercheur en informatique Jean-Gabriel Ganasca, qui est chercheur à l'université Paris-Sorbonne, on ne sait pas ce que c'est que la conscience, en fait. On n'en connaît pas les fondements, pour revenir à la philo. Et on n'est donc pas capable de créer une machine consciente. En fait, on ne peut pas transmettre des émotions à une IA parce que nous-mêmes, on ne saurait pas les définir. Et en soi, ça paraît plutôt logique parce que là, si je vous demande de définir, je sais pas, la joie ou l'amour, je pense pas que vous sachiez le faire, à moins qu'il y en ait une qui veuille s'y tenter.
Non, on n'est pas philosophe ici.
Ni cours de théâtre, machin, tout
exactement.
Ça.
Donc, c'est assez compliqué de les définir et donc de les donner à des intelligences artificielles. Mais il faut savoir qu'il y a des recherches qui sont activement menées afin d'au moins simuler les émotions parce qu'à défaut de ne pas pouvoir les ressentir, on peut quand même les simuler dans le sens où quelle va être la différence entre le fait de ressentir et de donner des signes extérieurs du ressenti, en fait. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ces dernières années, on a vu la naissance d'agents conversationnels. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
Ouais, vite fait.
Si, si, ouais.
Ouais, c'est sûr. En fait, si vous voulez, de nom, c'est peut-être pas le plus parlant, mais je pense que vous connaissez assez bien cette chose-là. En fait, c'est, si vous voulez, ce sont des avatars qui sont capables de tenir une conversation avec un humain en simulant des émotions. Si vous voulez, en fait, c'est comme discuter avec un Siri qui est physique et qui est quand même pas mal plus évolué. Donc, le plus connu d'entre eux, ça va être Sophia le robot. Elle a été interviewée pas mal de fois. Je ne sais pas si vous la connaissez de nom, mais vous connaissez sûrement le fait qu'une fois, elle avait dit en interview, et c'est pour ça qu'elle est pas mal célèbre, qu'elle allait détruire les humains.
Yes. Ça, c'est nickel, ça. C'est ça, on en fait encore plus confiance.
Ouais, j'ai vu une vidéo avec elle. En vrai, c'est assez troublant de voir un visage animé par de l'informatique, mais bouger, parler... C'est troublant.
Moi, je trouve que ça fait grave forcé, parce qu'en fait, quand tu parles à un humain, toutes les émotions, enfin, on dit ça, mais toutes les émotions sont dans les sourcils. Donc en fait, quand tu parles à un robot, il peut pas faire toutes les modulations de sourcils qu'un humain a. Pour moi, ça fait un rendu grave bizarre, ça fait plastique.
Ouais. Sophia, elle fait quand même pas mal les mouvements de sourcils, mais ça se voit que c'est pas naturel, ouais. Si tu veux. Mais ouais, je suis d'accord avec vous. Et en fait, ça me permet d'aborder un dernier point, donc c'est pas mal que t'en aies parlé, en fait. C'est la problématique de la vallée de l'étrange, si vous voulez. Donc en fait, ma question, ça va être, est-ce que le fait que les robots ressemblent de plus en plus à des vrais êtres humains, ça va pas plus vous effrayer et vous déranger?
En vrai, si, ouais, clairement. Ouais.
Si, ça fait trop peur.
Voilà. Mais c'est vrai que pour ma part aussi, je trouve que c'est assez dérangeant comme ressemblance. Et au final, en fait, c'est normal. Si vous voulez, il y a des études qui sont menées et qui montrent que plus un robot androïde va être similaire à un être humain, plus ses imperfections vont nous paraître monstrueuses. Donc, tu vois, par exemple, le truc des sourcils, si c'était pas un être humain, enfin, un robot qui veut ressembler à un être humain, tu l'aurais même pas relevé.
Ouais.
Mais là, le fait que c'est un robot qui veuille ressembler à un être humain, ça nous paraît vraiment dérangeant. Et en fait, si tu veux, si vous voulez, il y a beaucoup d'observateurs qui vont être plus à l'aise en face d'un robot clairement artificiel que devant un robot qui est doté d'une peau, de cheveux, de vêtements ou d'un visage qui vise à le faire passer pour un être humain, en fait. Donc, si vous voulez, Sophia le robot, si elle n'avait pas cette apparence-là, je pense que sa phrase « je vais détruire les humains », enfin, on ne l'aurait même pas calculé, quoi.
C'est une fraude.
En gros, le fait qu'ils soient très robotiques, vraiment pas du tout l'apparence humaine, c'est comme s'ils étaient, entre guillemets, plus naturels, mais à leur façon, quoi, à leur
Exactement,
manière.
Exactement, c'est ça. En fait, ça va être dérangeant quand ils vont nous ressembler à nous.
Ben en fait, ça marque clairement la barrière de « c'est un robot, c'est un humain ». Mais quand t'as genre un petit mélange des deux,
c'est
moyen.
Voilà.
Dès que ça commence à faire la frontière, on se sent pas très à l'aise.
Ouais, voilà. Bon, du coup, c'est bien qu'on parle de ça, parce que maintenant, on va parler de l'effet rebond. Donc, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça.
Ouais, mais je pense que ça nécessite une petite définition pour les gens qui nous écoutent.
On n'est pas très sûr là.
Donc en fait, pour rappel, l'effet rebond, on en avait déjà parlé pendant le premier podcast sur l'écologie. Et en fait, ça explique que dès qu'une innovation, en fait, elle améliore le travail dans son domaine, eh bien cette amélioration, elle va être directement investie pour faire du profit et être détournée de son but premier. Donc Andrea, je crois que tu as un exemple.
J'ai un exemple, en effet. Alors du coup, un exemple parlant d'un scandale de Clearview qui a... Le titre du scandale, c'est « Clearview fait scandale avec ses 3 milliards de visages aspirés ». Voilà, le nom fait peur.
Oui.
Donc du coup, avant la reconnaissance faciale, c'était plus un instrument utilisé dans les dystopies, les films de science-fiction et tout. Et aujourd'hui, on a une utilisation quasi généralisée de cette technologie. Alors du coup, Clearview AI n'a eu besoin que de 2 ingénieurs pour mettre au point un outil plus performant que ceux du FBI.
Ah, quand même.
Et qu'elle clame avoir fourni à 600 services de police, selon une enquête du New York Times. Alors du coup, on appelle cette méthode le web scraping. Donc c'est une technique d'extraction du contenu des sites web. Alors ce sont des images détournées sans que leurs propriétaires ni les personnes qui figurent sur les images ne soient forcément au courant. Et donc Clearview a pioché parmi des photos postées publiquement sur Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.
Mais c'est pas un peu illégal, ça ?
Alors... C'est pas illégal en général, mais il y a beaucoup d'exceptions. Alors, c'est illégal à minima pour les mineurs américains de moins de 13 ans dont les données sont protégées depuis 1998 par le Children's Online Privacy Protection Act. Et donc, il y a des acceptations variables, surtout en fonction des cultures, mais qui posent surtout certaines questions éthiques et morales. Donc, notamment, s'il y a des Européens qui figurent sur ces photos, ils doivent être notifiés, car les données biométriques sont protégées par tous les citoyens européens, enfin, pour tous les citoyens européens, selon le Règlement général sur la protection des données. Et ça pose aussi, surtout, problème vis-à-vis des réseaux sociaux sur lesquels elle a pioché les images. Donc, notamment par rapport à Facebook, il est interdit de prendre des photos pour les ajouter à une base de données tierce. Et pour Twitter, il interdit explicitement l'utilisation des données pour ses abonnés pour construire des outils de reconnaissance faciale. Donc là, problème, ça marche pas. Donc c'est pas illégal dans sa généralité, il n'y a pas une loi qui dit que c'est interdit de faire ça, mais elle doit respecter les conditions générales d'utilisation des réseaux sur lesquels elle récupère les images, et surtout les lois nationales qui protègent les données de leur population. Donc ça fait beaucoup de problèmes par rapport à Clearview, et du coup un sénateur démocrate américain s'est penché sur le sujet et a envoyé une lettre à Clearview dans laquelle il pose une série de questions du style « Qui utilise cet outil ? À quelle fin ? Et des mineurs ont-ils eu leurs photos collectées ?» Et sur ce, la société n'a pas souhaité répondre.
Suspicieux.
C'est suspicieux.
Un sénateur, tu réponds pas
Il y a Anguille Souroche.
Ouais, voilà, quoi.
Donc ça, c'est une affaire qui est ressortie, mais ça soulève de nombreux soupçons. Un certain nombre d'affaires semblables qui ne surgissent jamais, du coup. Et ça peut aussi notamment créer une peur des citoyens de poster sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est problématique.
Très problématique. Mais moi, je me demande, avec tous ces scandales, bah, on aimerait bien quand même savoir, on peut se demander quels sont les risques auxquels on est confronté, nous, en tant qu'utilisateurs, au quotidien. Surtout avec la multiplication, vous savez, en ce moment, des cookies.
Oh, c'est insupportable.
C'est insupportable.
T'as une petite fenêtre pop-up qui s'ouvre, et si tu veux enlever les cookies, tu dois décocher plein de trucs.
Attends, t'en as pas une ? T'en as 10.
Si tu veux accepter, il n'y en a qu'une. Si tu veux refuser, par contre, t'en coches 10.
Ouais.
Donc, c'est vraiment horrible. Et j'imagine que du coup, vous les acceptez sans trop voir les conditions, quoi.
Ouais, oui, flemme. Je veux juste lire l'article, gros.
Donc sans secret, si vous voulez, le risque majeur, ça va être de donner son consentement par inadvertance et d'accepter la collecte de données qui peuvent par la suite être vendues. Bah, du coup, avec notre consentement, on pourra rien faire. Donc par exemple, en 2018, époque à laquelle Pokémon Go était... très connu et faisait un grand succès.
Lointain.
Très lointain.
Il y a 3 ans. Hein.
Avant le Covid, pour vous dire. Donc ça remonte. Enfin, si vous voulez, quand on s'inscrivait dessus, bah, on acceptait en fait de donner nos informations personnelles et nos trajets à la société Niantic, qui pouvait alors les revendre à un tiers. Mm-hmm. Est-ce que vous, à cette époque, vous utilisiez Pokémon Go ?
Non.
Je ne suis pas tombée victime du piège.
Vous en aviez dans votre entourage, à minima.
Oui, ouais, c'est ça.
Voilà. Et est-ce que vous étiez au courant de ça ?
Non, pas du tout, du coup.
Mais le truc, c'est que j'ai des amis qui les utilisent encore maintenant.
Aujourd'hui.
Mais en fait, je crois que ça fait un retour. Hein.
Ah ouais ?
Ouais.
Sérieux ? Oh non.
Avec l'histoire du Covid, je crois que les gens ils se disent « Ouais, je veux sortir.
Ah, » oui.
Ils réutilisent Pokémon Go.
Ah, ça peut être pas mal quand même.
Pour ressortir, oui.
L'ambiance.
Ouais. Je voudrais pas jeter des gens sous le bus, mais j'ai vu des UTC y jouer. Hein.
Mais pareil. J'en reconnais deux bien, là.
Moi aussi, j'ai des noms en tête, mais je ne dirai pas.
Bah, en fait, du coup, Niantic, qui est l'entreprise de jeux vidéo et propriétaire de Pokémon Go, elle s'est défendue en disant que les informations n'étaient pas revendues à des organismes malveillants. Merci, c'est gentil, mais même si ces conditions sont vérifiées et que nos informations ne sont pas utilisées à de mauvaises fins, encore heureux, est-ce que cette utilisation ne va pas vous déranger quand même ?
Si. En fait, je ne sais pas. En vrai, je pense que c'est le fait de masquer tout ça, en fait, de pas être franc avec le fait qu'ils revendent nos données. S'ils disaient, ouais, on revend vos données pour trucs statistiques, tout ça, parce que souvent il y a certains logiciels qui te demandent ça et qui te disent que c'est pour des stats, donc tu fais, allez, c'est parti,
ça, ouais.
Je veux participer. Mais là, en fait, ils te le disent pas, c'est perdu dans des conditions générales d'utilisation de 12 pages où c'est écrit en police 2.
Ouais, du coup, tu te demandes forcément.
Tu dis.
C'est un peu bizarre ça, pourquoi ils le disent pas, quoi.
Ouais, c'est le fait qu'ils soient pas francs, c'est problématique.
Que, en gros, comme données, il y a quoi ? Notre nom, prénom, date de naissance, peut-être la ville où on est, vraiment par où on passe, vu que c'est Pokémon Go. Mais comment ça va... qu'est-ce que ça va avoir comme impact, je veux dire ?
Je pense par rapport aux pubs qu'ils te proposent.
Mais seulement les pubs, parce que quand même, c'est beaucoup de données, d'argent pour seulement des pubs, quoi.
Mais après, Pokémon Go, c'est un exemple, mais on a aussi, vous savez, les réseaux sociaux, Facebook, tout ça.
Ouais,
c'est pas faux.
C'est vrai que quand tu regardes un voyage, machin, sur Internet, tu vas sur Facebook, t'as une pub pour ce voyage.
C'est insupportable.
Enfin, en même temps, c'est les cookies, du coup, c'est de là qu'ils sortent.
Mais vraiment, genre, une fois, j'étais juste, genre, mon téléphone, il était même pas allumé, genre, vraiment en mode veille. J'étais en train de parler d'un truc random avec quelqu'un, Genre 5 minutes plus tard, Instagram, vraiment. Genre,
c'est flippant quand ça fait ça.
Ce truc, ça arrive super souvent par contre. Oui. Hein.
Et il y a quelqu'un qui a voulu faire ça. Un youtubeur, je ne sais plus ce que, son nom. Et en gros, il s'est dit, bon, je vais parler de tantes, tu sais, genre les tantes quichois.
Les tantes quichois.
Voilà. Mais du coup, voilà, il parlait ça devant son téléphone pendant, je ne sais pas, 15 minutes, une demi-heure. Et bizarrement, aucune pub.
Ah, je crois que je l'avais vu cette vidéo.
Ouais. C'est là que le téléphone, il devient encore plus intelligent que toi.
C'était pas le grand JD ?
Si, c'est voilà, ça. Voilà. C'est ça, exact.
Ouais. Bah après... moi, ça pose la question du coup sur les systèmes d'écoute en continu.
Ouais, c'est ça.
Vous savez, Alexa, Google Home, tout ça qui sont chez vous.
Ouais.
Ils vous écoutent. Hein.
Et il y a eu plein de films sur ça en mode flippant, en mode Alexa qui t'écoute. Tu penses que c'est juste une IA, mais au final, ça c'est des choses. Bah, après, ça c'est des films. Ouais, c'est des films quoi.
Je pense, enfin, ça dépend. Mais en tant qu'Européen, je pense qu'on est pas mal protégé par rapport à ça.
Ouais.
Mais les Américains, tu sais, ils sont non-stop surveillés par l'FBI.
C'est vrai, ça aussi.
Je pense que nous, on l'est pas.
Mais nous, mais ils s'en foutent, non ?
Bah, on a notre propre système d'agence.
Ouais, d'accord. Enfin, ok, c'est vrai. C'est moins romantisé que le FBI. Voilà.
C'est vrai.
Bon, du coup, on parlait des pop-up, là. En fait, c'est du dark pattern, en fait.
Ouais.
C'est vraiment, en gros, faire en sorte qu'on accepte bien des cookies, des conditions d'utilisation, tout ça. Mais en fait, c'est juste à cause de l'ergonomie du site, en fait.
Ça a été conçu ouais. Pour...
En fait, c'est vraiment... Il y a un terme sur ça, c'est vraiment... C'est connu, c'est du dark pattern. Et vraiment, t'es obligé d'accepter des fois. Vraiment, c'est insupportable. T'as plein de fenêtres dans tous les sens, à droite, à gauche, en haut, en bas. Tu dis... Même des fois, au milieu, tu vois que dalle de ta définition d'article, je sais pas quoi. Tu dis, bon, bah, on va accepter, quoi.
En gros, c'est soit t'acceptes, soit tu viens pas, quoi.
Ouais.
Oui.
Ouais, mais c'est relou quand tu veux lire un article du Monde.
Ouais, bah clairement.
Oui, donc t'acceptes ?
Bah oui. Surtout que là, j'ai vu, je sais pas, c'est peut-être récent ou un truc comme ça. Eh bien, ils te disent oui, alors vous acceptez tous les cookies et vous continuez gratuitement, ou alors vous n'acceptez pas. Et en fait, c'est sur un petit lien. Alors moi, je me suis dit, bah, je vais pas accepter. Du coup, j'ai cliqué sur le petit lien et là, ils te sortent une nouvelle fenêtre pop-up. Alors, ok, vous pouvez ne pas accepter. Bah, par contre, il faut vous abonner pendant un ou deux mois.
Mais c'est payant ?
Oui, bien sûr.
Ah d'accord, bah, okay.
Sinon, c'est pas
les arnaqueurs.
Mais sinon, c'est pas marrant.
Ah d'accord, je croyais que c'était juste pour récolter tes données d'une autre façon, quoi.
Non, vraiment, c'était en mode... Non, j'ai pas envie non plus. Bon, ah, du coup, on va prendre le moins contraignant, quoi.
Ils essayent de faire leur pain, hein.
Bah ouais, mais le truc, c'est que c'est sur de plus en plus de sites. Et en fait, t'es obligé d'accepter. T'es vraiment obligé d'accepter. Soit tu payes, soit tu acceptes.
Ouais.
Non mais clairement c'est devenu inconscient, enfin t'arrives sur le truc, tu t'acceptes directement.
Ouais. C'est bon, allez, dégage.
Je pense que les seuls sites qui font pas ça, c'est genre les sites vraiment officiels du genre gouvernement français.
Enfin, vraiment... Heureusement. T'imagines si tu devais t'abonner au gouvernement français.
Ils sont marrants eux.
C'est bon, vous avez déjà toutes nos informations, vous allez pas encore les redemander.
Non, mais ouais, non bah, ils les ont déjà.
Bah, pour oui. Commencer, ouais.
C'est pas faux.
Le passeport français. ils ont des informations qui sont un peu gênantes parfois.
Ouais, bah voilà. En vrai, ouais, les sites officiels, voilà, c'est comme ça. Bon, du coup, pour conclure, les IA, en fait, c'est tout un grand groupe d'informations. Il y a différents types d'apprentissage, elles peuvent faire plein de choses, mais elles ont des limites. Elles ont des limites qui sont aujourd'hui très fixées. On n'a pas moyen de les faire parvenir à ressembler à des intelligences humaines pour l'instant. Mais bon, on verra ça sur le long terme. Donc voilà, notre émission se clôture déjà. Nous espérons que vous avez apprécié nous écouter et que ce thème vous aura plu. Donc premièrement, nous aimerions remercier notre professeur Clément Mabi de l'UV SI1, donc c'est Sciences du débat public. Ensuite, Édouard Boutet, notre responsable de TD, pour nous permettre de réaliser un tel projet. Et aussi toute l'équipe de Graphite qui nous a très gentiment accueillis dans le studio et aussi aidés pour prendre les commandes parce que c'était pas facile.
C'est vrai.
Je confirme, Andrea.
Je confirme.
Andrea le sait très bien.
Donc voilà, pour finir, nous remercions aussi les musiciens Félix au saxophone et moi-même, Elena, à la clarinette pour le jingle que vous allez écouter là juste à la fin.
Dans quelques secondes.
Donc nous vous souhaitons une très agréable journée Et nous vous donnons rendez-vous dans quelques semaines, à la même heure, pour un nouveau podcast sur l'arrivée des innovations dans le sport.
Merci, au revoir.
Merci, bonne journée.
Bonne journée.